bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale, soyez bienvenue avec Leïla Kadour-Boudaoui, Daniel Morin,
bonjour, Nagui.
Albert Algoud,
bonjour.
Jérémy Crétry,
bonjour.
Tanguy Pastureau et notre invité, Monsieur Zep.
Bravo.
Bonjour. Bonjour Zep, bienvenue.
Merci.
Bienvenue à ce micro. Vous venez de publier, je crois que c'est tout frais, hein. C'est hier, c'est ça?
Hier, ouais.
C'est à peine sec.
Il est à peine sec.
C'est bon. Dans le contexte, en plus, on va mieux comprendre.
Ouais. C'est le Happy Sex, le deuxième volume. Vous avez mis 2 ans à retrouver du plaisir. À trouver.
Quoi? Il y a Guy en pleine forme.
Avant du jus, un peu. Pour,
du jus. Voilà, du jus.
On s'y met à deux.
On peut s'y mettre à plusieurs dans le livre.
Ça va être compliqué, de toute façon, pendant une heure.
Parti. Mais c'est vrai que quand on a lu et quand on a ri en lisant cette bande dessinée, qui est une bande dessinée pour adultes, soyons précis, vous avez beau être le papa de Titeuf, vous n'en restez pas un obsédé sexuel.
Oui, c'est ça.
Vous... J'aime bien la tête.
J'ai bien fait de venir.
La tête du Suisse calme.
C'est que d'être dans la bibliothèque, avoir Titeuf et puis avoir Happy Sex à côté, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on regarde ça, on sourit.
Non, c'est impossible d'avoir... Mais non, c'est impossible.
Tu ne peux pas très haut dans la bibliothèque.
Je n'ai pas d'enfant, alors, donc je mets ça où je veux, c'est encore le bonheur de...
C'est la grande phrase, je n'ai pas d'enfant, tu peux le mettre où tu veux, mais il se trouve que c'est là, il faut être prudent. 60 moments, la grosse différence c'est quoi? C'est la modernité, puisqu'on se retrouve avec le sexe connecté, on se retrouve avec les applications, ce qui était peut-être moins à la mode il y a 10 ans.
Oui, ce qui a changé, tu dis, en 10 ans, ouais. Bah oui, c'est les manières de se rencontrer, les pratiques de rencontre grâce au site.
Les pratiques de rencontre, parce que les pratiques, elles sont...
Mécaniquement, ça fonctionne un peu toujours de la même manière, mais j'ai l'impression. Et puis, y a un côté plus conso aussi dans le sexe. Effectivement, on peut dire, on n'est plus cash, on va dire j'aime ça. Enfin, avant même de rencontrer son partenaire, on peut déjà dire sur Internet si on veut, avec ou sans anchois. Donc il y a un côté un peu... on peut commander ce qu'on veut, quoi.
Tout, presque tout est abordé, en tout cas dans ces 60 planches, je sais pas comment, ou histoire, ou scénar, je sais pas comment vous préférez
historiette,
S-A-Y. On va en parler dans quelques instants avec vous, mais d'abord, il était trop court celui-là.
Titre aussi.
Quel président d'un grand pays a critiqué ouvertement le travail de Philippe, c'est-à-dire de
Obama.
Zep. Non.
L'Européen. Critiqué en mal.
Critiqué, choqué.
Orban.
Erdogan. Non.
Brésilien.
Bolsonaro.
Oui, exactement. Ouais. Ah oui, mais il a travaillé des crimes. Ouais, Jérémy, c'est ça. Exactement. Bolsonaro, le fan qui ça rime avec facho, ça rime avec idiot, ça rime avec tout ce que vous voulez.
Bon, un peu de respect pour la fonction.
qui sur un plateau, si lui en avait du respect, on en aurait pour lui. Ouais, ça doit marcher dans les deux sens, ce respect. Sur un plateau de télé en pleine campagne présidentielle, il a brandi le guide du zizi sexuel pour le critiquer. Mm-hmm. Vous l'avez vu ou vous l'avez
vu ça, j'étais stupéfait, effectivement. J'ai dit, quel promo, qu'est-ce qu'il fait pour une fois qu'il fait quelque chose de bien.
Il a même dit et dire qu'on abat des forêts pour faire ça.
Alors qu'on pourrait les brûler, ce qui serait quand même plus simple. D'ailleurs, ça a été un coup de promo ou au contraire, vous êtes interdit de diffusion maintenant au Brésil?
Non, c'est plutôt un coup de promo parce que la bande dessinée au Brésil, c'est pas du tout.
C'est pas marché.
Ce qui se passe en France, c'est pas incroyable. Ça reste quelque chose d'assez confidentiel. Et c'était hyper étonnant de voir Bolsonaro en pleine présidentielle s'attaquer au guide du zizi sexuel comme si c'était une partie importante de son programme, de faire interdire les 12 000 exemplaires.
Donc c'était avant d'être élu tout ça.
C'est avant, mais c'était le débat télévisé juste avant le dernier tour.
Ah, genre le débat du deuxième tour.
Mais oui. Ouais,
mais c'est peut-être à cause de vous qu'il a été élu.
Peut-être. Parce que je pense que les gens était vraiment sensible à cet argument.
Au final, la culpabilité. Est-ce que vous avez beaucoup de retours, alors peut-être pas d'hommes politiques ou de personnalités, autour de la de votre travail et particulièrement le guide du zizi sexuel ou Happy Sex? Et ce sont des choses qui éveillent plus la curiosité que Titeuf, qui est un énorme succès planétaire mondial. Mais est-ce que vous avez des réflexions, voire des personnes choquées?
Non, sur Happy Sex, non, parce que c'est un livre pour adultes, il est emballé, c'est écrit réservé aux adultes, ça s'appelle Happy Sex. Généralement, les gens qui viennent savent un petit peu. Ouais. Donc personne va me dire.
Ils seront pas déçus, en tout cas.
Profondément choqué. Généralement, les gens sont plutôt contents, ils se sont marrés, voilà. Mais par contre, dès qu'on parle de sexualité et qu'on s'adresse à des enfants, là,
c'est le cas du guide.
Ça déclenche des peurs incroyables. Donc le guide, ça continue à être un livre qui est tit-off de manière générale. Il continue à avoir des détracteurs, même au Brésil. J'étais très surpris. Mais effectivement, Bolsonaro avait déjà fait sur sa chaîne YouTube, il avait déjà fait deux vidéos où il brandissait le guide en mettant le doigt à l'intérieur, il y a un trou, on peut expliquer un peu comment ça marche. Donc, c'est assez drôle, j'ai une vidéo de Bolsonaro qui nous fait la démo. Moi, je parle pas portugais, donc je comprenais pas. Je voyais son expression qu'il avait pas l'air d'adorer. Mais je me dis peut-être que culturellement, la pub, ça se fait comme ça au Brésil. Je le connaissais pas la première fois que j'ai vu ça, c'est peut-être il y a 4 ans. Ça fait un moment qu'il en veut au guide.
Non, mais de la même manière.
Je pensais que c'était l'attaché de presse locale. Je disais, tiens. En tout cas, il y croit, quoi. Il a une conviction dans son truc.
Mais finalement, oui, vous avez raison. Comment dire, il faut être flatté d'avoir détesté par les cons, c'est une qualité, non ?
Bien sûr, il vaut mieux.
Pourquoi le mot guidon était devenu une insulte suprême quand il était petit ?
Il se l'est pris dans le...
Non.
Guidon.
Parce qu'il savait pas faire de vélo.
T'as vu, je veux même pas savoir où il se l'est pris.
J'avais terminé.
Guidon, c'est une insulte. Pourquoi ?
Ah ouais.
Et c'est lié à une histoire personnelle, pas lié à une explication linguistique.
Non, c'est une histoire de Titeuf.
Pas lié au vélo.
Mais c'est qui est une histoire vraie dans votre vie d'enfant ou pas ?
Oui.
Parce qu'on n'avait pas le droit de dire pédale, donc on disait guidon.
Ah là là.
En tout cas, on ne comprenait pas pourquoi pédale était une insulte, donc l'insulte
par
suprême devient guidon.
C'était guidon. Enfin, tout ce qui s'associait au vélo semblait être un truc un peu agressif.
Chambre à air.
Ouais. Ça, c'était salaud. Chambre à air, c'était violent.
C'est vrai que c'est... Sonnette.
Zep a eu une époque...
Ça a l'air délicat.
Non.
Il a eu une époque, Zep.
Il a eu surtout un prof particulier, parce que ce dernier disait ou prétendait quoi ?
Qu'il savait pas dessiner.
Alors c'est à propos du savoir, mais c'est pas du dessin.
Voir, écrire,
jouer de la musique. Musique, non, guitare, chanter.
Retenir des trucs.
Recommence la question à nouveau.
Un professeur prétendait, il était très particulier, prétendait quelque chose en termes de savoir.
À propos de Zep ou à propos de lui ?
Non, à propos de...
Savoir que la Terre était plate.
De la connaissance.
Qu'il était crétin.
Alors, que la Terre était plate, non. Qu'il était crétin, non. Au contraire.
Qui était
trop intelligent.
Ouais, je pense.
C'était un génie.
Non, il prétendait tout savoir.
Ah.
Prétendait
mon prof.
Ouais. Oui, pas vous. Oui, non, je parlais du prof. Ouais. Et donc vous passiez votre temps avec vos copains à chercher à le piéger.
C'est-à-dire qu'on lisait des. c'est ce qui m'a fait aimer le dico en fait. On lisait des définitions dans le dictionnaire la veille ou surtout dans les noms propres. Et le lendemain, on lui posait les questions les plus. Vraiment les pires, quoi.
Et il savait
qui était Eugène Poubelle, enfin des choses comme ça.
Ça va.
Ça, c'est assez facile. Il y a un indice. Mais il se déballonnait jamais. Il répondait toujours, mais quand il savait pas, il inventait un truc. Et donc effectivement, là, on voit le bloc. Erreur, car comme le dit le Larousse 71.
Comme mais ça, donc, on apprend en même temps.
On apprenait.
On ouais.
Mais là,
on s'est pas rendu hyper populaire auprès de.
Non. Mais là, on apprend quoi dans ces cas-là à l'école ? À être déjà un petit con dès le début ou à justement se forger sa personnalité, son caractère
Je pense qu'on apprend deux trucs. On apprend à être un peu un casse-couille et on apprend aussi qu'au fond, les adultes, même s'ils nous donnent l'impression de tout savoir, ne savent pas tout.
C'est clair.
C'est une chose importante.
À 20 ans, où Zep aimait-il se réfugier ?
Dans les toilettes. Cinéma non.
Dans la cave.
À l'extérieur.
Non.
Dans un arbre.
À l'église.
Dans
un arbre.
À l'église.
À l'église. Alors, je vais accepter
monastère,
ça.
Monastère.
Exactement.
Monastère. Ouais.
C'était se réfugier, vraiment, il y avait une notion de protection.
Non, c'était plus, je partais, j'aimais bien aller faire des retraites dans le silence. Je trouvais ça assez incroyable, le fait d'être dans un lieu où personne parle.
Y penser, Nagui.
Et vous dites que vous avez arrêté quand vous avez eu des enfants, c'est ça ?
Ouais,
mais là, pourquoi,
le silence,
justement,
c'est délicat.
Non, mais c'est une façon de laisser les enfants.
Non, mais c'était, ça aurait été pas mal, ouais. Effectivement.
Et pardon, la croyance est quand même le lieu de prédilection, enfin, les monastères, dit croyance, dit religion. Ouais. Est-ce que vous êtes croyant ? Est-ce que.
Non, je suis plus, mais je l'ai été pendant cette période. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui m'interrogeait. Et puis, ouais, j'étais assez fasciné par cette idée de s'extraire du monde et de partir. En même temps, quand on fait de la bande dessinée, on n'est pas complètement plongé dans une vie trépidante de bureau. On est tout seul dans l'atelier, donc c'est déjà assez cool. Mais d'être un peu même déconnecté de l'époque, je trouvais ça assez fascinant de rencontrer ces gens qui avaient tout quitté. En même temps, je pouvais pas dire que j'avais des longs moments d'échange avec eux puisqu'ils ne parlaient pas.
Ce qui est incroyable, c'est que votre désir de, comme vous l'avez dit, de s'extraire du monde, dès l'instant où vous écrivez et vous signez Happy Sex, s'extraire, on l'écrit plus du tout de la même manière. C'est ça qui est dangereux avec vous. Comment Zep a-t-il dessiné un jour les clients d'un restaurant ?
Tout nu ?
Non.
Sur une table.
Sur le mur, en grand ?
Non, mais en tout cas, il l'a fait avec son regard d'obsédé.
Il les a. Ah. Transformer et changer les sexes en homme en femme.
Transformer en animaux.
En quoi?
En plat, non, en meubles.
En tub.
Oui, exactement. Exactement.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Vous voulez. Bon, bah, c'est que le.
Du verlan, un penny. On sait dire ça, mais on sait pas dire cela.
Tu peux dire zizi. Vous avez dessiné toutes les personnes du restaurant en zizi.
Ouais, mais c'est assez drôle à faire comme exercice.
Arrêtez, parce qu'on va vous demander d'essayer la bande originale en zizi.
Il y a un exemple, il y a Titeuf, ici, qui est.
C'est vrai.
En
God Michel.
En God.
Voilà, en God.
Pour la fête des mères.
La chute, c'est pas une bonne idée pour la fête des mères. C'est pas pour la fête des mères.
C'est une idée, quoi.
Ceci dit, pourquoi pas, après tout, si ça peut lui faire plaisir.
Moi, j'en ai un. J'ai un Nagui. C'est un truc de voyage, il est tout petit. Hein.
De poche.
Exactement.
De poche. Donc, ce deuxième tome d'Happy Sex, vous vous êtes donné des limites ou au contraire, le gros avantage lorsque l'on écrit un livre pour adultes, c'est qu'on peut tout se permettre. Il n'y a pas d'interdit.
Ouais, normalement, on peut tout se permettre. Donc, non, il n'y a pas de tabou, pas de pages qui ont été écartées parce qu'elles étaient. Enfin, de toute façon, on voit tout. Pour moi, on est entre adultes, c'est explicite, et il n'y a pas de raison de, si je dois dessiner un anus, de le styliser différemment, parce que le dessin permet aussi d'avoir une distance qu'aura pas le cinéma, par
Ils
exemple.
Ils sont très bien dessinés, en tout cas.
Mais j'ai un dessin assez méticuleux, donc effectivement, j'ai pas un dessin très... je suis pas Hugo Pratt qui va évoquer les courbes. Si je dis une paire de couilles, c'est une paire de couilles.
Voilà, vous êtes tellement méticuleux que, si je peux me permettre de raconter aux auditeurs ce qui s'est passé juste avant l'émission, vous étiez en train de faire gentiment un dessin pour quelqu'un, et je vous dis, on est en direct, il y a l'antenne qui arrive, il faut y aller, et ce à quoi Zep m'a répondu, bon, alors je vais lui mettre moins de poils, comme ça. Parce que je suis très méticuleux.
C'est ce qui est le plus long.
C'est ce qui est le plus long. Bah, oui. Un par un, c'est ça. Vous pouvez pas dessiner.
On n'a pas trouvé d'autre.
Autrement, justement, le dessin. Albert Agout, toi qui es un spécialiste.
Oh, spécialiste, mais.
De la bande dessinée, non, mais comment juger le talent de Zep?
Ben, justesse du trait, vivacité du trait, parce que c'est un formidable dessinateur. Et ce qui est formidable, c'est que l'art de Zep, disons, ça fait un grand mot là, mais l'art de Zep, ça transfigure justement la trivialité. Ce qui pourrait être obscène ne l'est pas. Et c'est ça qui est formidable. Ouais. Et la drôlerie s'installe. Mais aussi, comment dire, s'il y a de la profondeur, vous allez ricaner. Mais
non, c'est pas notre genre.
Non.
Parce que, comment dire, le dessin de Zep, il n'est pas simplement anecdotique. Il y a aussi, il y a beaucoup de sens. Notamment, les rapports fille-garçon sont ici vus à une lumière tout à fait critique et sympathique, à mon avis.
Ouais, alors, Je sais pas s'il y a un regard sociétal dans votre dessin. Vous cherchez toutes les situations possibles et imaginables, mais pas spécialement. On peut pas dire que ce soit un album féministe, on peut pas dire que ce soit un album machiste non plus.
Non, c'est une observation contemporaine de la sexualité de mes contemporains.
Non, mais moderne, réaliste et un peu triste. Notamment, je pense à la planche là de la Cougar. Qui avec un jeune garçon, c'est assez triste en fait.
Et assez triste, ouais. Je suis d'accord.
Mais il y a aussi surtout beaucoup la société de consommation, c'est-à-dire que c'est le sexe
qui se consomme
à la chaîne, mais il y a aussi la monotonie dans le couple. Il y a aussi le
l'envie d'essayer des trucs, c'est souvent un peu casse-gueule. Mais c'est vrai qu'on n'a pas c'est pas dans nos pratiques de parler de sexe pour finir. On le fait, on consomme, mais de moins en moins on en parle avant.
Par pudeur.
Et on n'en parle pas après parce que ça fait un peu bizarre, c'est débat, enfin je sais pas, c'est ça étrange. Ouais. Du coup, on parle peu de ses préférences. Les hommes, on est quand même dans une tradition de performance, donc on va peu raconter nos failles. Alors moi, j'ai beaucoup plus de peine à avoir des anecdotes de la part de mes copains, que des amis sont beaucoup plus généreuses pour raconter ce qui leur est arrivé.
Mais parce que surtout, et c'est le sujet d'ailleurs d'une planche, sur l'orgasme...
On a moins à raconter, c'est clair.
Voilà, ouais. Sur l'orgasme, formidable. C'est absolument génial, c'est-à-dire qu'il y a toute une page sur l'orgasme féminin...
Vu par les filles.
Non.
Les métaphores.
Métaphores vues. Oui. Si, c'est les filles. Hein.
Ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, ce qui est clair, c'est que les femmes ont la chance d'avoir tous les orgasmes possibles et imaginables. Et puis l'homme est juste là avec son petit bouchon qui.
C'est une bouteille de champagne qui saute, quoi.
Voilà, c'est ça va pas plus loin.
Alors que les filles, c'est d'une variété, d'une poésie.
Ah, c'est la galaxie, c'est voilà. Tout d'un coup un
tableau de Miro.
Un chant merveilleux en fleurs. Et
du surf.
Oui, c'est
tout. Ça va être une grande vague.
C'est une grande sensation, quoi.
Mais c'est ça qui est.
C'est vrai qu'on n'a pas grand chose. C'est pour ça qu'on parle plus de la taille de notre tub, parce que on n'a pas grand chose à raconter autrement.
Deux fois.
Ça s'appelle Happy Sex, c'est toujours chez Glénat. Vous ne changez pas
C'est chez Delcourt.
Delcourt, pardon. Alors, chez Glénat, c'est Zep et c'est Capitaine Biceps.
Capitaine Biceps,
c'est chez Glénat. Pardon. On va continuer évidemment d'en parler, mais d'abord, voici d'autres révélations faites par. C'est pas François?
Non, c'est le père Albert.
Oh, bah pardon, mon père.
Non.
Mais on peut l'applaudir quand même.
Bien sûr. Bonjour Nanguy, coucou Zep.
Bonjour mon père.
Aujourd'hui, à sa demande, je remplace mon ami François, qui est en garde à vue pour viol. Mm-hmm. Alors, je vous rassure tout de suite, pour viol de sépulture, il s'est rendu au cimetière canin d'Anières pour déterrer Paquita, sa fidèle chienne, afin de la faire empailler. Alors, il s'est fait prendre la pelle à la main, mon cousin. Bref, c'est donc moi ce matin qui suis chargé de révéler les vérités qui dérangent. Moi aussi, comme vous Nanguy, j'ai lu Happy Sex avec une très vive curiosité. Comme vous le savez, le chaste célibat auquel je suis voué me tient éloigné des tentations de la chair et, fidèle au règlement de ma boîte, je pensais avec innocence que c'est dans l'obscurité la plus totale, sous les draps, dans la sainte position du missionnaire, grâce à une ouverture ménagée dans leurs chemises de nuit respectives, à la hauteur de leur partie honteuse, qu'un papa et une maman, devaient s'accoupler dans un but unique, la procréation d'un petit nymphant. Eh bien, rien de ça dans Happy Sex, où il n'est question que de sado, masturbato, nos danus, trisome, bit service, sextoy, levrette, cougar, essai, massage érotique, gender fluide, j'en passe et des pluthorides.
Ah oui, gender fluide, c'est vrai.
Mais, quitte à vous surprendre, mon cher Nanguy, oui. Tout cela ne m'a point choqué.
Tiens.
En effet, à la différence des boules de vis dessinées par Zep, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et comme l'a pensé Georges Bataille, évoquant Sainte Thérèse d'Avila en extase, le ravissement charnel est peut-être une expérience mystique, va savoir. Donc tout cela ne me choque pas. En revanche, cher Zep, je tiens à dénoncer ta véritable intention. C'est au verso de ton album, et non sur la couverture, que figure la mention réservée aux adultes. Et ça ne me dit pas que c'est un oubli, car tu le sais pertinemment, un jeune en recherche de sensations, fan de Titeuf, voyant ton nom sur la couverture de Happy Sex, va immédiatement feuilleter l'ouvrage, et son innocence s'en trouvera précocement souillé. Tu as perdu la foi, tu le disais tout à l'heure, mais tu mériterais un exorcisme flash. Pas des rétro exeat corpus zepus diabolicus. Mais, comme le temps me manque, je dois y aller. Mon ami l'abbé Jacques Facial m'attend dans ma camionnette, garée en double fil. Bonne bande originale.
Merci, à bientôt.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et le point de vue féminin dans tout ça, Leïla. Bah oui, évidemment. Bah, parce que la femme est de toutes les planches.
Oui, et j'ai ressenti ce côté. J'imagine qu'autour de vous, les femmes ont été plus promptes à vous raconter des choses avec humour aussi. C'est-à-dire que on n'est pas dans la culture de la performance et on est plutôt dans l'anecdote. Je pense à celle de la forte poitrine, notamment,
qui m'a fait
pleurer de rire. Merci Simpson, mais c'est délicat d'en parler sans que les auditeurs voient cette planche.
Il faut pas tout dévoiler.
Mais surtout, je me suis énormément amusée. J'ai beaucoup ri.
C'est très drôle.
Vraiment, ouais. Vraiment, c'est génial.
C'est très, très drôle.
C'est l'ironie, voilà, j'ai changé le mot tout à l'heure, l'ironie constante, surtout pour les garçons, je trouve, pour les filles aussi.
Oui, c'est ça. L'homme ne sort pas vainqueur, quand même, dans toutes les situations. Ouais.
Non,
mais encore c'est... la taille, encore un problème de taille.
Ah bah, le micro-pénis est évoqué. Hein.
Oui, c'est vrai.
En revanche, on n'a pas d'histoire de... On a deux femmes, on a un homme, une femme. On n'a pas deux hommes. Enfin, il y a une planche où, malencontreusement,
il y a un dérapage
aussi deux hommes. Ouais. Ouais. Non, il n'y a pas d'histoire homo. En fait, j'ai écrit beaucoup d'histoires.
Ça a rappé,
mais je me suis rendu compte que mes histoires homo, elles ne sont pas... c'est pas mon domaine. Ouais. Et il y a un auteur allemand homo que j'adore, qui s'appelle Ralph Koenig.
Ouais, Ralph Koenig, formidable.
C'est absolument génial sur le quotidien sexuel.
Il s'appelle Koenig.
Ralph Koenig.
Comme le roi Koenig.
D'accord. Et voilà, donc je me sentais moins appelé à raconter ces histoires-là. J'ai gardé une histoire avec deux femmes.
Oui, c'est génial, deux femmes, ça vous a pas freiné voilà.
Non. Mais dans l'absolu, j'étais parti pour en faire aussi. Mais il se trouve que mes histoires hétéro étaient mieux, je pense.
Ouais. Donc, oui, et puis il y a des groupes, il y a des troupes, il y a de tout. Hein, ça part dans tous les sens.
Il y a de la maillot.
Il y a beaucoup de solitude
de
aussi. Il y a beaucoup de solitude. Il y a aussi, notamment, je pense au sexe connecté, où chacun dans son coin se fait plaisir ou pas d'ailleurs, on va pas donc révéler
c'est
la chute
sur la technologie qui nous emmerde à la
rigueur. Alors ça c'est une invention ou ça existe, pardon pour
ça
la question.
Existe, ouais, ça existe bien sûr. Ça existe.
Vous êtes documenté
des sextoys connectés à distance, ouais. Où chacun peut se faire plaisir par wifi.
Oui. Alors ça demande d'avoir une
bonne connexion.
Moi, je suis assez mauvais. Déjà mon ordinateur me pourrit la vie. Là, je vous dis pas quoi. C'est carrément l'horreur.
Est-ce que 4G, alors je rappelle que c'est
la 4G,
c'est le mode de diffusion, ouais. C'est ça, c'est pas l'endroit.
C'est pas un super orgasme.
C'est pas l'endroit où ça se passe. Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup de retours féminins, ne serait-ce que votre propre épouse? Comment est-ce qu'elle est la première juge électrice?
C'est ma première. Enfin, j'ai deux lecteurs, c'est mon éditeur Guy Delcourt et mon épouse. Et donc je leur fais lire mes storyboards, qui sont les pages dessinées de manière assez simple. Et généralement, alors mon
ça
éditeur me répond,
femme, ouais.
Mais ma femme, je vais voir quand elle le lit, parce que je regarde comment elle réagit, si elle éclate de rire ou si elle dit ah c'est sympa. Et je fais ma sélection comme ça. Quoi.
Dis-moi Albert.
Dans le dessin aussi, ça me vient maintenant. Les personnages sont des gens de la vie de tous les jours. C'est pas forcément des Apollons. Ils ont des physiques très variés. J'allais dire normaux, ordinaires. Et ça, c'est un clin d'œil peut-être ou une référence à un dessinateur formidable qui est Dubout, qui était qui a dessiné des.
On continue dans les vannes.
Oui, bien sûr. Ça, qui se prête parce qu'il a fait aussi des dessins érotiques, mais lui, c'était plus dans la trivialité, donc presque étrange tellement c'était trivial.
Mais alors, est-ce que vous, tant qu'à sortir de votre personnage de Zep, hein, parce que j'allais dire, il y a Philippe dans la vie de tous les jours, il y a Zep pour dessiner Titeuf ou Capitaine Biceps, pourquoi c'est Zep qui écrit Happy Sex et pas Philippe Chapuis et pas ou un autre pseudo?
Pour moi, ça fait partie du même travail. J'aurais pas envie de cacher ça. Pour moi, on n'est pas dans l'idée d'un enfer où il faut le... C'est pas honteux. Je trouve que c'est plutôt... même pour les enfants, parce que c'est quelque chose que... Alors, contrairement à ce qu'a dit le père Albert, l'album est blisterisé. Donc, il est quand même protégé. Il est vendu dans un emballage plastique,
malheureusement. Mais ils sont habiles, tu sais.
Ils sont habiles. Ils sont fourbes. Et donc, j'ai souvent des enfants en dédicace qui me disent « Mais pourquoi nous, on n'a pas le droit de... Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir ce livre, évidemment ?» Et je trouve cool que ça les intéresse, évidemment. Ça les interroge et de leur dire qu'ils le liront quand ils seront plus grands, même si je sais bien qu'ils
vont le piquer
et le lire avant. Mais on sait aujourd'hui que les enfants de 10 ans ont tous vu de la pornographie
sur Internet.
C'est moins, c'est pas nocif de voir ça par rapport à. Mais pour finir, la pornographie, on en fait aussi toute une terreur pendant longtemps. On avait l'impression que si nos enfants voyaient une image pornographique, il fallait les emmener chez le pédopsie. La plupart du temps, ça les fait plutôt
rigoler. Alors que les parents Daniel l'ont emmené chez le vétérinaire.
Non, mais ça n'a rien arrangé.
C'est vrai que la typo de la couverture, elle peut évoquer quelque chose d'hyper enfantin et de souriant. Donc la tentation doit être grande, quoi.
Mais oui, mais enfin, dès qu'on sait lire, c'est quand même écrit sexe, en gros.
Oui, mais alors, bon, sexe.
C'est Titeuf qui a grandi, souvent, c'est un personnage.
Complètement. Pour moi, c'était le 1, c'était je faisais un Titeuf pour les grands.
Voilà. c'est voilà. Ça.
Est-ce que la question du happy, parce qu'on s'arrête évidemment beaucoup sur sexe, mais est-ce qu'il fallait que ce soit joyeux, il fallait que ce soit avec le prisme de l'humour, que vous parliez de sexualité, et pas celui de l'esthétisme ou celui de simplement l'histoire racontée?
Ouais, moi j'ai envie, enfin je trouve que c'est un sujet qui est souvent trop sérieux et qui mérite un peu de légèreté. C'est au centre, enfin c'est un sujet.
Ça va rarement ensemble au moment où ça se passe, en tout cas.
Alors éclater de rire au moment où on le fait, c'est pas génial. Mmh. Généralement pour les messieurs, c'est un peu perturbant, mais vaut mieux se marrer si ça marche pas et reprendre plus tard. Je pense qu'on a un urgent besoin de se marrer de ce sujet parce que ça devient souvent un pensum, c'est quelque chose qui pourrit la vie des couples et aussi et même des gens tout seuls.
Ça pourrit la vie ou c'est le moteur aussi pour certains?
C'est le moteur, mais ça peut être quelque chose qui devient... Si ça se passe pas bien, si ça se passe bien, oui, bien sûr, c'est un moteur. Mais si ça se passe pas bien, ça peut être quelque chose qui vraiment vous gangrène la vie. Alors que moi, je pense que c'est quelque chose qui est là pour l'épanouissement.
Mais là, vous avez raison, c'est pas la question de ça se passe bien ou pas bien. C'est que ça peut toujours mieux se passer. C'est-à-dire qu'on cherche à voir quelle peut être l'évolution pour ne pas tomber dans la banalité et faire toujours la même chose.
Ouais, mais le fait de pas en parler...
D'où les accessoires, d'où les...
Oui, les sextoys. Ouais. Mais ça, c'est de la cosmétique, mais le fait de
c'est récent quand même, pardon,
de rigoler de ça ensemble, ouais. C'est déjà une bonne manière de sortir des fois d'une situation où on est bloqué, on a une sexualité qui est pas épanouissante ou est pas épanouissante pour l'un des deux ou l'un des trois ou l'un des quatre et le fait de pas pouvoir le dire ça va juste pourrir petit à petit la relation, la vie de la personne, alors que des fois un bon éclat de rire permettrait de
passer et de mettre à vie, ça dédramatise tout de suite en plus.
Je vais voir si Bolsonaro, ça le fait marrer, par exemple. Je sais pas si ça va suffire.
Envoyez-lui le tome. Ça s'appelle Happy Sex. C'est le deuxième de la série, parce qu'on imagine que vous n'allez pas vous arrêter. Et tant mieux. En si bon chemin, c'est aux éditions Delcourt et c'est signé Zep. Voici Monsieur Jérémy Créville.
Voilà. Bonjour à tous.
Tu te déboutonnes.
Mais je ne suis pas Jérémy Créville.
Oh la vache.
Je suis Jean-Guy Hallyday. Le sosie de Johnny Vegas. Sosie de Johnny Hallyday. En gros, je suis le sosie du sosie. Rock and roll! Je suis ravi d'être dans ton émission, Maggie. Au nom de tous les chroniqueurs, d'ailleurs, je t'ai écrit une chanson.
Oh, Nagui, si tu pouvais arrêter de nous couper toutes les vannes qu'on a loupées. C'est parce qu'en même temps que nous tu parlais.
Voilà, le message est passé.
Bravo.
Mais c'est sympa, non?
Ouais, mais
c'est... Oui, non.
Mais c'est pas fini.
C'est pour tes droits d'auteur.
Oui. Non, je suis également ravi de rencontrer Leila Kaboul-Boudbadi. Daniel Moru, Albert Holgood et Zip. J'aime beaucoup tes BD, Zip, parce que il y a de la lecture et il y a des dessins. Et puis même que si c'est en noir et blanc, tu peux colorier tes BD. Rock'n'roll! Moi aussi, j'ai ma bande originale. La dernière fois, on était en week-end entre copains sosie. On était en train de se baigner, mais il y en a une qui voulait boire une carafe de Ricard. La sosie de Véronique Sanson. Alors, on est sorti de la piscine. On s'est essuyé. Et là, il y en a un qui a dit, c'est bon, les sosies sont secs, on peut commencer l'apéro. Mon préféré dans le groupe, c'est Titi. Merci pour la batterie. Mon préféré dans le groupe, c'est Titi. Il est muet. C'est le sosie vocal d'Étienne Dao. Mais ce matin, je suis venu vous parler du succès d'un autre sosie. Le sosie vocal de Johnny, qui est breton. Il a donc non seulement la même voix, mais aussi le même taux d'alcoolémie. Chouchène! Faut savoir que les meilleurs sosies ne sont pas bretons, mais alsaciens. Ce sont les fameux sosies de Strasbourg.
Oh.
Et on connaît tous quelqu'un qui est son sosie.
On connaît tous une personne qui est son sosie.
Yeah.
Pour faire Nagui, il suffit d'être petit. Pour faire Leila, suffit pas d'être jolie. Pour faire Morin, il faut avoir envie. C'est ça la vie de sosie.
Voilà, bon. Le sosie breton s'appelle Jean-Baptiste Guégan, du Molière. J'ai lu dans Le Parisien qu'une partie des fans de Johnny se retrouvait dans ce breton de 36 ans. Ça doit faire mal. Balade! Balade, c'est comme rock'n'roll, mais en plus doux. Le sosie vocal a sorti son album le 30 dehors, le 30 out en anglais. Et le mec est devenu disque d'or en 2 semaines. Hein, il entame bientôt une tournée des Zéniths et ça c'est un profond manque de respect pour la profession de sosie. Oui, parce qu'il y a des règles à respecter en tant que sosie. Normalement, un sosie, ça fait pas la tournée des Zéniths. Non, ça fait la tournée des galeries marchandes. Promotion ! Ensuite, on doit prendre soit le nom, soit le prénom de celui dont on est le sosie. Pour les sosies de Claude François, c'est plus compliqué puisqu'il a deux prénoms. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Frédéric François, c'est le sosie de Claude François et de Carole Frédéric. Jean-Baptiste Guégan, finalement, il a fait fortune grâce à la mort de Johnny Hallyday. C'est donc pas que le sosie de Johnny, c'est également le sosie de Laetitia.
Oh.
Oui, il a de la chance, Jean-Baptiste Guégan, parce que c'est le parolier du vrai Johnny qui lui a filé des chansons que la star devait enregistrer. Le mec avec les droits d'auteur, il peut acheter la Suède. Ça sème dernier cri. Non, mais vous imaginez si c'était le parolier de Grand Corps Malade qui avait écrit l'album ?
Accent.
Que je peine. Que je peine à trouver une fin à cette chronique.
Bravo, Jérémy
Cotteret. Bande originale, Nagui, sur France Inter.
C'était pas radiophonique, mais...
Si.
Mieux que l'original.
Super bien.
Et les tatouages sont top.
Franchement, tout à l'heure dans le...
Il s'est
grimé.
Il s'est déshabillé déjà pour la chronique. Il a la chemise grande ouverte. Il faut voir le podcast pour comprendre à quel point, même physiquement, le regard, la position,
la bouche,
la totale.
Le filet de bave.
La bûche. C'est pas la bouche, c'est la bûche. Zep et la musique. Zep a choisi ce pseudonyme en clin d'œil à Led Zeppelin. Est-ce que vous jouez toujours de la musique? Est-ce que la musique est toujours très présente dans votre vie? Que vous l'écoutez en travaillant?
Oui, ça dépend. Mais la plupart du temps, quand je dessine, j'ai de la musique. Alors, c'est pas lié, c'est pas parce que je fais Happy Sex que je vais écouter que Prince et Marvin Gaye, par exemple.
Mais, ou Barry White.
Non, je peux même ni Pierre Perret parce que je dessine Titeuf.
Il y aura un Happy Rock 2?
Je pense pas. Non. Je suis moins. À l'époque où j'ai fait Happy Rock, j'allais vraiment au concert très très souvent, donc j'avais plein d'histoires à raconter. Là, je suis devenu un peu plus pantouflard. Donc,
On va évoquer la musique dans votre vie, celle que vous écoutiez, et j'en ai parlé. Led Zeppelin, c'était début des années 80. You need bien d'avoir Love aussi avec Led Zeppelin, justement, on retrouve et le Happy Sex 2 et votre pseudonyme de Zep. C'était vraiment l'un des répertoires que vous jouiez le plus quand vous étiez dans un groupe?
Ouf, qu'on essayait, mais c'était à l'époque où j'ai pris ce nom, j'avais 12-13 ans, donc on était hyper débutants, on jouait affreusement mal, donc on essayait de singer Led Zeppelin, mais c'était vraiment pas brillant.
Vous entrez aux Arts Déco à Genève, où il y a une section qui tout d'un coup vient de s'ouvrir pour de la bande dessinée, ce qui n'était pas prévu initialement. Mm-hmm. Depuis quand vous avez vraiment envie d'être dessinateur? C'est né quand?
Ah, tout le temps, en fait. Quand j'étais tout petit, en fait, même avant de commencer l'école, moi j'ai commencé l'école assez tardivement, je suis rentré à 4 ans et demi, j'ai squeezé la première année de maternelle, et je dessinais à la maison, je recopiais les bandes dessinées, en fait, mes parents lisaient de la BD, donc je recopiais de la BD, et ça me fascinait, j'avais envie de faire la même chose, sans savoir ce que ça voulait dire, mais en fait, pendant je pense... Mes 5 premières années d'école, je disais à chaque fois ça. Je disais, quand je serais grand, je ferais de la bande dessinée. Mes profs me regardaient avec un petit sourire entendu, genre, oui, mais ton vrai métier, qu'est-ce que ce sera? C'était pas.
Ça vous a pas découragé?
Non, parce que, quand on est petit, on est naïf, et puis j'étais sûr que ça, ce serait quand même possible. Et après, arrive à l'adolescence, le fait de commencer à aller voir des rédactions, de présenter mes dessins et de me faire jeter. J'avais une double motivation. Je me disais, en plus, j'ai envie de réussir pour prouver à ces gros bâtards qu'ils avaient.
Attendez.
Ah oui.
Happy Sex.
C'est un pro. Hein. Il arrive jusqu'à l'orgasme. Il raconte son histoire et ça s'arrête pile au moment de l'orgasme. Pour enchaîner, on est en 2001. Vous écoutiez... Je suis allé trop loin, c'est pas de bien.
Plein de petits chapeaux bizarres. c'est le mec qui est sur 10 heures.
Ah bah non, non, je suis allé trop loin, pardon, mais il y avait une date avant, mais je ne l'ai pas. Ok, d'accord. On était en quelle année avant? Dans les années. Fin des années 80.
Fin 80.
Pardon, fin des années 80, on écoutera Goldman plus tard, fin des années 80, l'excellent Mink Willy DeVille. Qu'est-ce que vous aimez chez Willy DeVille ?
J'adorais le personnage. Déjà, c'était vraiment...
La dégaine, la coupe de cheveux.
La dégaine, sur scène, la manière dont il bougeait.
Tout maigre. Hein. Ouais.
Tout maigre. Ouais. Il commençait en redingote avec une lavalière hyper classe. Il finissait à torse nu, trempe de sueur avec des tatouages partout. Ça devenait un animal. Et j'ai eu la chance de faire des affiches pour lui à l'époque.
Super.
Donc je l'avais vu, j'avais été le dessiner en loge. C'était vraiment un personnage, il avait une dent en or. Enfin, c'était... J'adorais ce bonhomme, il se baladait avec des petits chiens qui sentaient très très mauvais.
Non mais c'est vrai qu'il avait un petit côté cocotte et puis un côté très rock.
Mais vraiment, entre le début du concert et la fin du concert,
c'est pas le même.
C'était deux personnes complètement différentes. Un peu comme Jagger aussi, qui... Et de se transformer vraiment en cours de show.
Et fin 80, début 90, c'est une période difficile, puisque vous demandez si vous allez pouvoir continuer. En tout cas, vos parents s'inquiètent en disant il va devenir graphiste, il va faire autre chose.
Quelle horreur.
L'insulte.
Et comme souvent dans ces circonstances-là, c'est soit on abandonne tout, soit il y a un élément qui vient sauver tout.
Voilà, l'élément, c'est Titoff, en fait, qui est venu sauver tout.
Et comment
Début des années 90, j'avais du travail. En fait, j'envoyais des dessins un peu partout. Je faisais des dessins dans la presse. Je faisais pas mal d'affiches culturelles. Mais tous mes projets BD que j'envoyais à des éditeurs étaient systématiquement refusés. Donc là,
ils ont eu du flair.
C'est souvent comme ça. En fait, ils passent leur temps plus à refuser des projets qu'à en accepter. Donc, je commençais à douter sérieusement de ma vocation. Mais j'avais envie de faire de la bande dessinée. Mais je me rendais compte que la bande dessinée que je voulais faire était peut-être pas forcément celle qui serait publiée. Donc, j'ai commencé à dessiner un truc pour moi dans un journal, une sorte de journal intime en fait, et j'ai eu envie de dessiner l'histoire de mon enfance, et mon atelier donnait dans une cour d'école, donc j'ai dessiné cette cour d'école, et le fait d'être en contact avec ces gamins pendant la récré, je les entendais gueuler, s'insulter, inventer des mots, d'être dans ce côté très transgressif des gamins, mon enfance que j'avais partiellement, enfin en grande partie oubliée, est revenue, et j'ai commencé à dessiner des souvenirs de cette époque-là, et j'ai dessiné mes copains, mon école, enfin mon quartier.
Hélène était déjà dans votre vie ou pas?
Non.
D'accord.
C'était 10 ans avant.
D'accord.
Et au moment de me dessiner, je j'avais pas envie de me dessiner moi gamin, parce que le truc qui me coupait le plus les pattes à l'époque dans la bande dessinée, c'était de dessiner des cheveux. Je détestais dessiner des cheveux. Et moi, gamin,
les poils,
c'est horrible, on n'en sort pas, quoi. C'est vraiment le truc laborieux, tu sais, parce que tu dois redessiner ton personnage des centaines de fois. Et quand il faut dessiner les lacets, les cheveux, le truc qu'il faut jamais faire, par exemple, c'est un personnage avec une veste en pied de poule. Ça, c'est le truc. Il faut être suicidaire pour faire ça. Bah, c'est drôle, le premier dessin. On se dit c'est cool, mais au 20e album, on est forcément dépressif. J'avais pas du tout. Moi, j'avais une coupe de cheveux à la Hervé Villard quand j'étais gamin, et je me voyais mal commencer à dessiner cette atroce coupe de cheveux des dizaines de fois. Je pensais même pas à plus que ça. Et j'avais trouvé un petit bonhomme pour un autre projet qui avait une tête qui ressemble un peu à un champignon ou à un gland, en fait, et qui avait une mèche sur la tête. Je trouvais ça marrant. Je disais, tiens, la mèche, on peut l'utiliser aussi pour l'expression, elle peut bouger en fonction de son humeur. Donc j'ai dessiné mes potes, et au moment de me dessiner moi, j'ai mis ce petit bonhomme, il avait une tête d'œuf, je l'ai appelé Titeuf. Voilà. Tout ça était destiné à être une sorte de journal, quoi, un travail personnel. Je pensais pas que
ça serait publié. Quand même ce côté croire en soi, en son envie en tout cas, et ne rien lâcher.
Bah en fait, quand on est artiste, généralement,
parce qu'il y avait beaucoup de signaux,
on croit vachement en soi, parce qu'on est tout seul à croire en soi pendant très longtemps. Donc il vaut mieux y croire vraiment, parce que c'est dans l'indifférence générale pendant des années.
Mais quand on est artiste, le plus dur, c'est de convaincre les autres aussi, c'est de se vendre, entre guillemets.
Ouais. Alors, Bon, l'avantage de la bande dessinée par rapport au roman, par exemple, c'est qu'on n'a pas besoin de solliciter quelqu'un très longtemps pour qu'il voit ce qu'on fait. Il n'a pas besoin de lire 500 pages de manuscrit. On montre un gag, il rit pas. Enfin voilà. Et Titeuf, ça s'est passé tout de suite. En fait, j'ai montré les pages et tout de suite les gens ont croché sur ce personnage. Et puis c'est allé relativement vite pour finir. Le premier album est sorti en noir et blanc parce que il passait dans un petit fanzine qui publiait pas de couleurs parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Donc on a dit bon, on va quand même le laisser en noir et blanc parce qu'au fond ça vaut pas la peine de mettre la couleur pour ça. Il y a eu suffisamment de gens pour qu'on fasse un deuxième en couleur. Et puis voilà, de fil en aiguille, de dédicace en dédicace, il y avait de plus en plus de gens qui venaient.
Et aujourd'hui, combien de millions de personnes achètent Titeuf?
Alors bon, j'attends les chiffres du Brésil hein,
qui peuvent changer.
On doit être à 24 millions d'albums de Titeuf.
Pouch. Bah, c'est mérité. 2001, le guide du zizi sexuel et Jean-Jacques Goldman.
Elle met plein de petits chapeaux bizarres. Elle sourit quand elle marche dans la rue. Aux Indiens, aux livreurs, aux motards. C'est pas la plus jolie. Ça tombe bien, moi non plus.
Jean-Jacques Goldman, c'est lui qui vous contacte? Pour faire des pochettes d'albums,
oui, ouais, ouais.
Travailler ensemble.
Pour son dernier album, en fait. C'est vrai. On ne savait pas encore, mais ce qui a été son dernier album.
Danse avec les pieds.
Ouais. Chanson pour les
pieds. Chanson pour les pieds, pardon.
Ouais. C'était génial. Je me suis retrouvé.
Vous pensez qu'il a arrêté sa carrière parce que c'est vous qui avez fait la pochette?
Je pense, ouais. Ouais. Il s'est dit, c'est bon, quoi. Tout est dit. Comment aller au-delà?
Vous êtes hyper influent. Vous lancez des carrières en politique. Vous finissez des carrières artistiques. Incontournable.
On ne sait pas ce qui va se passer pour nous.
Vous ne savez pas encore.
Et c'est le fameux guide du zizi sexuel. On est en 2001 que vous avez coécrit avec Hélène Brulère. Et l'idée, c'est de répondre. De l'époque.
Ouais.
Oui, de l'époque.
Voilà. Et l'idée, c'est de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les enfants sans qu'ils n'osent jamais le faire auprès des adultes.
Ouais, voilà. Et puis c'est un peu comme Happy Sex. L'idée, c'était de faire de ce sujet quelque chose de léger et de marrant. Voilà, moi, je me souviens que enfant, c'était un sujet qui nous questionnait beaucoup, mais pas l'impression qu'on était obsédé, mais on était inquiet parce qu'on nous disait des choses sur la sexualité qui étaient vraiment des infos très très parcellaires. On disait, tu verras, l'adolescence, regarde les adolescents, tu vois, comme ils ont l'air cons avec leurs boutons et leurs moustaches, tu vas être comme ça aussi. Après, on voyait des adolescents qui se roulaient des pelles, on disait, c'est atroce, c'est dégueulasse. Et mes parents disaient, tu verras, toi aussi, tu vas aimer ça. Et puis, le cours d'éducation sexuelle, on nous montrait des planches anatomiques d'un monsieur sur une dame qui rentrait à l'intérieur de la dame. Puis on disait, mais comment on va pouvoir faire ça avec nos zizi de 3 cm? On disait, non, votre corps va se transformer. Alors, nous, corps qui se transformait, à cet âge-là, l'image qu'on avait, c'était Hulk, par exemple, qui se transforme. Et donc c'était assez flippant, on disait mais on va être vert aussi, enfin, et on n'osait pas poser ces questions mais qui étaient sincères, on disait mais transformer comment? Parce que celui qui pose cette question, évidemment toute la classe se marrait, alors qu'elle rêvait qu'on ait une vraie réponse. Donc on s'est dit on va faire un truc où on répond à ces questions qui semblent des questions marrantes et un peu bêtes mais qui sont des vraies inquiétudes d'enfants, et Titeuf jouait le rôle de celui effectivement qui sait toujours moins que les autres.
Et moi j'ai des souvenirs avec des gamins dans mon entourage à cette période-là qui avait le livre entre les mains, qui avait une sorte de malin plaisir à montrer que finalement c'était plus réservé qu'aux grands, en fait, parce que jusqu'à présent le sexe, on sentait qu'il fallait fermer les oreilles, et qui montrait le livre, qui répétait souvent le mot sexuel. Il me disait, c'était une petite fille qui me disait, c'est le guide du zizi sexuel. Et elle sentait que ça nous mettait un peu.
Elle pouvait le dire.
Ouais, et qu'en même temps on était là un peu gênés, mais que finalement il n'y avait pas de soucis, quoi.
Bah oui, ça fait partie des mots qu'on adore dire quand on est gamin. Il est super ton vélo sexuel.
En 2004, vous écoutiez.
Je suis un missionnaire de la drogue, je la fous. Le cul du tout, on est espadrille à clous.
Machistador. Version live, parce que c'est l'un des artistes les plus talentueux en public.
En live, il est incroyable.
Incroyable. C'est un mec de spectacle, musicien éclectique avec des tonnes de qualités. Vous l'avez rencontré, vous avez.
Bah, à l'époque, on se connaissait un petit peu et il avait même fait la musique, le générique du dessin animé Titeuf.
C'est vous qui l'avez choisi. Il était élu, pourquoi lui alors?
Je l'avais entendu en concert et j'avais trouvé complètement génial ce mec. Et donc je lui avais dit, est-ce que tu es d'accord de faire ça? Et il aimait bien Titoff. Je crois qu'il a un petit frère un peu plus jeune que lui, donc qui était lecteur assez fan hardcore du personnage. Donc il était assez content de faire le truc.
Et 2004, c'est une grosse année. Non seulement vous recevez le Grand Prix d'Angoulême pour l'ensemble de votre œuvre, Titoff entre au musée Grévin. Ouais. Et ça peut sembler moins important, mais il y a une sortie d'album à l'occasion de la sortie du 10e, je crois, album de Titoff, Nadia se marie. Il y a plein d'artistes qui sont invités.
Ah oui, pour faire des portraits de Titoff.
Faire des portraits de Titoff. Ouais. C'est pas mal d'avoir le regard des autres.
C'est génial.
Surtout des auteurs que vous devez adorer.
C'est un truc qu'on aime beaucoup, en plus, dans la bande dessinée, le fait de dessiner les personnages des uns et des autres.
C'était formidable.
C'est cool.
Vachement bien. Ça, c'est la reconnaissance ultime pour un dessinateur?
Pour moi, ouais. D'avoir des dessinateurs que j'ai admirés, Uderzo qui m'a fait un Titoff, Gottlieb, c'est super, quoi. Ça arrivait, c'était Noël tous les jours. Et moi, j'adore faire ça aussi dans mes albums, faire intervenir
des caméos
de temps en temps.
Il y a Pascal Brutal.
Pascal Brutal,
qui est au sol.
Qui fait partie du threesome.
Du threesome et qui est une victime collatérale.
Et en plus, on dirait que c'est Riyad Satouf qui l'a dessiné, tellement c'est bien dessiné. C'est formidable.
Oui, mais l'intérêt n'est pas de copier.
Donner sa vision.
C'est un dommage. C'est de l'interpréter. Comme un cover en musique.
Exactement.
Comme une reprise.
Et ça, il faut demander l'autorisation à l'auteur pour le
faire. Pascal Brutal, il faut demander.
Il est furieux, Riyad.
Si tu avais mon autorisation, il dit non. Vu ce qui lui arrive, il refuse.
Si, non, il aurait dit oui, Pascal Brutal, c'est mal le
connaître. Oui, non, je l'ai envoyé à Riyad quand je l'ai fait. Généralement, c'est quelque chose qui nous amuse beaucoup. Tant que les auteurs sont là, c'est toujours quelque chose qui les amuse. Quand ils sont plus là et que c'est les ayants droit, c'est un peu plus compliqué. Je pense que Tintin dans Happy Sex, ça ne serait pas forcément...
D'autant qu'il est au musée d'Angoulême. Il est au musée d'Angoulême, Tintin, avec Milou, en particulier, dans une posture
Albert Algoul.
Il est au musée, mais...
Il y a zéro sexe.
Dans Tintin on pourra en discuter des heures.
Non, mais oui ou non, il y a du sexe?
Oui, il y a du sexe, oui. La Castafiore.
Ouais, c'est une sacrée.
D'accord, ok. Non, mais Tintin lui-même n'a pas de
sexe. Non, je plaisante, bien sûr, il n'y a pas de sexe au sens propre du terme.
Non, mais lui n'a pas de sexualité.
Milou
Mais non, arrêtez. Bon, allez, ok.
Adoc.
Ça pose question.
Il n'y a pas de mal, hein.
Pour prendre avec des mecs.
Nous recevons, un peu de respect, s'il vous plaît, nous recevons maintenant Daniel Ballesteros. Oui, Daniel, vous êtes médecin et vous venez de publier L'amour, c'est bon pour la santé aux éditions de La Musardine, puisque justement le sujet, la toile de fond d'Apisex 2, signé Zep, est autour de la sexualité. Est-ce que on vit en France, en tout cas, une sexualité libérée, frustrée,
épanouie,
connectée?
Alors j'ai apporté un peu de fantaisie parce que jusqu'à maintenant c'était un peu triste. Disons sérieux,
c'était
très sérieux.
C'est
donc j'ai apporté un peu de fantaisie en disant qu'on est frusto-libéré, c'est-à-dire qu'effectivement par les mœurs actuelles on pense qu'on est libéré, mais en réalité beaucoup de frustration. D'ailleurs j'ai lu avec beaucoup de joie votre album et ça marche jamais, hein. Ça marche jamais les rapports sexuels,
c'est
si vous regardez bien, ça foire toujours. Donc c'est un petit peu la vérité.
Et parce que c'est fait pour faire rire, donc ce qui fait rire c'est quand ça marche pas.
Ça fait pas rire les gens quand ça marche pas.
Hein.
Moi, j'ai les frustrés, j'ai les chez moi. Hein. Donc je veux dire que c'est pas très 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 rigolo.
Est-ce que la sexualité aujourd'hui en France est plus libérée qu'elle ne l'était il y a 20-30 ans, ou au contraire on revient dans un carcan?
Alors en 68 c'était la grande libération sexuelle, et puis arrivaient deux choses tout à fait étonnantes. Tout d'abord le sida.
Oui, il y avait la pilule avant.
Il y avait la pilule, effectivement. Ouais. Et en plus, il a fallu attendre 20 ans pour découvrir un truc qui s'appelle le clitoris. Donc à partir de 1988, on s'aperçut que les femmes avaient un clitoris. Ah oui, c'est d'ailleurs dans une
c'est
de dans, vos...
Ouais, c'est très très drôle.
De vos bandes, je ne sais pas si on peut dire bandes...
On peut dire bandes.
Parce que c'est une bande à toutes les...
C'est une bande dessinée dans une bande originale, oui.
On retrouve ce problème du clitoris. Donc, c'est des découvertes actuelles, mais dans les années 50, on ignorait la fellation, le clitoris, etc. Donc maintenant, on commence à s'y mettre un petit peu. Mais disons, il y a bien sûr en plus, il y a l'histoire, on ne peut plus draguer comme on veut, alors que bien sûr sur le réseau soucieux, moi je les appelle comme ça, les réseaux sociaux, on drague à tout va, mais on ne peut pas draguer dans le réel. Donc ça met quand même des barrières entre les gens et ça entraîne une certaine frustration.
Alors justement, comment définir notre époque? Est-ce que c'est, puisqu'il y a eu la libération sexuelle dont vous parliez dans les années 60-70, on serait dans une sexualité qui serait définie comment?
Sous libération sexuelle. Parce qu'il y a, si vous voulez, il y a, au milieu de tout ça, il y a une grande misère sexuelle. C'est un peu ce qui sort de votre album. Une grande misère sexuelle. Les gens, font l'amour plus ou moins comme ils savent. Au-dessus, on a besoin de sextoy, on a besoin d'un petit peu de sadomaso, on a besoin de bondage. Et puis en dessous, heureusement, Et c'est là-dessus que mon livre est construit. Il y a une nouvelle lame, si j'ose dire, sous-jacente, qui est le slow sex. C'est-à-dire de ne pas réduire le sexe à fellation, pénétration, éjaculation faciale, comme on voit dans tous les films porno, sur tous les réseaux. Donc, cette partie-là, c'est la partie finale, mais c'est la moins intéressante. Ce qui est important, c'est la partie avant, préliminaire. Et donc, il y a des bases anciennes qui existent.
Mais alors, pardon, depuis... pourquoi distinguer les préliminaires de l'acte en lui-même pourquoi...
Ah non, mais ça fait partie de l'acte.
C'est
mais...
ça.
Oui, ça fait partie de l'acte.
Mais... Non, vous dites, il y a l'acte avant, les préliminaires. Les préliminaires, c'est déjà faire l'amour.
Pour moi, ça peut se résumer qu'au préliminaire. On n'a pas besoin de pénétration, d'éjaculation, on n'a pas besoin de bander, excusez-moi d'être trivial. C'est cette partie préliminaire qui est la plus intéressante et qui, elle, va permettre justement, ce que j'explique dans mon livre, des systèmes d'auto-guérison. Ça peut paraître curieux de se guérir à travers le sexe. On guérit deux choses. On se guérit du sexe, mais on se guérit aussi par auto-guérison parce qu'on va déclencher, ce que j'explique dans mon bouquin, des tas d'hormones du bonheur, la sérotonine, l'ocytocine, la DHEA, etc., qui font partie de l'acte sexuel à condition qu'on prenne le temps de le faire. Ce soit plutôt un slow sexy. C'est pour tirer un coup, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui compte, c'est faire l'amour.
Oui, alors c'est ça, parce que on a beaucoup entendu que chez l'homme, par exemple, l'éjaculation évitait d'avoir un cancer de la prostate, ce qui est totalement faux. C'est pas l'éjaculation en elle-même qu'il pourrait faire tout seul dans son coin, c'est le fait de faire l'amour.
Oui, c'est le fait. Plus on fait l'amour, plus on est en bonne santé, plus votre prostate est en bonne santé, c'est sûr. Mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'éjaculation. D'ailleurs, les méthodes anciennes, ancestrales, disent que sur 10 rapports sexuels, si on éjacule 2 ou 3 fois, c'est un grand maximum. Donc, c'est vraiment, on peut obtenir plus d'orgasmes sans éjaculation. On peut aller jusqu'au multi-orgasmique chez la femme, bien sûr, mais chez l'homme aussi.
Ah ouais. Chez l'homme aussi.
Chez l'homme aussi, c'est tout à fait. Si on sait, bon, certaines techniques, entre guillemets, qui sont écrites dans mon livre. Alors, je l'ai fait sur un côté ludique, hein, c'est un peu dans le style de votre livre. Moi, c'est un peu ludique, c'est marrant, parce que parler du sexe tristounet, c'est pas du tout rigolo. Donc, je l'ai fait un petit peu ludique. Et donc, vous avez vrai, il y a des tas d'anecdotes, dont j'en ai cité une tout à l'heure, qui étaient tout à fait croustillantes.
Est-ce que les fantasmes et les pratiques ont également évolué, ont changé? Est-ce que c'est le propre de toute société, finalement? Il y a toujours la même toile de fond, mais la perception, la vision et l'acte diffèrent.
Alors, il y a toujours le besoin de fantasmes, mais malheureusement, les fantasmes maintenant s'inscrivent sur des images qu'on voit trop en pornographie, etc.
Ça nuit
au fantasme, parce que la construction de la relation amoureuse a besoin de temps, d'images construites par les personnes et non pas par ce qu'on trouve dans les journaux ou sur Internet. Donc, c'est cette construction de la relation amoureuse qui va faire que petit à petit, on va être capable de construire avec quelqu'un un couple dans la durée et avoir des rapports sexuels de qualité.
Oui, parce que dans tout ça, il y a aussi de l'amour, parce qu'on parle beaucoup de sexe. Oui, mais on parle de sexe, on parle peu de sentiments. Or, la sexualité avec et sans sentiments, en termes de santé, c'est totalement différent.
C'est complètement différent.
Tarifé.
Tu auras ta consultation.
Sont tarifées, mais pas le reste. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on est complètement dépendant de Dame Nature pour rencontrer quelqu'un. C'est selon certains critères bien établis du temps de la préhistoire qu'on rencontre quelqu'un. Et après, c'est à nous de savoir se détourner de ces gènes qui nous mènent à telle ou telle personne pour ensuite avoir une relation dans le temps de qualité avec la personne avec laquelle on est.
Et la sexualité homme-femme, là aussi, elle évolue pas de la même manière. Est-ce que la libération, et tant mieux, de la sexualité des femmes, qu'elles s'approprient les différentes manières d'orgasme, et puis j'allais dire de leur liberté, frustre, bloque, brime les hommes, ou est-ce que les deux peuvent aller ensemble?
Alors, ça peut bloquer certains hommes qui sont pas, disons, j'ai quelques anecdotes dans le livre montrant ça.
Oui, on a compris, vous avez un livre.
Qui ont un égo surdimensionné, effectivement, ils ne vont pas accepter les remarques de madame. Mais les gens qui sont à l'écoute de leur épouse, donc c'est écouter, ressentir ce que la personne veut. Et on est des tas, maintenant on rentre dans les neurosciences, je m'excuse de parler de sciences. Hein, donc on a l'effet miroir, on a tout un tas de... On a la télomérase, enfin bref, on a des tas de substances qui sont sécrétées au moment du rapport sexuel et qui entretiennent une bonne relation avec les gens.
Et alors, l'éducation sexuelle, comment expliquer les choses aux enfants? Faut-il le faire? Et si oui, à partir de quel âge on peut parler de sexualité avec un enfant?
Alors, je pense qu'on peut en parler très tôt. Si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à partir de 12-13 ans, j'ai vu des films porno. Par contre, il y a une constante, c'est que c'est 17 ans le premier rapport sexuel chez l'homme.
En moyenne?
En moyenne. Et 17,5 chez la femme, parce que la femme est un petit peu plus réticente au début. Mais c'est normal, c'est inscrit dans nos gènes. Donc, ça.
Excusez-moi, expliquez-moi pourquoi.
Oui, parce que la femme La femme est toujours, c'est encore
pourquoi la femme est toujours
du temps de la préhistoire, la femme avait toujours du recul par rapport à l'homme qui était chargé de féconder toutes les femmes de la tribu pour que la tribu se perpétue dans le temps.
Oui, c'est juste que la femme courait plus vite que l'homme à l'époque. Donc,
sauf que là, les choses ont changé.
Quand vous faites avoir qu'une femme, il faut quand même attendre 6 ou 7 minutes avant qu'elle se décide. Parce que c'est tout à fait hormonal.
Ce qui est fou, c'est que vous avez des tonnes de trucs à raconter sur le sexe et ça m'étonne que vous n'en fassiez pas un livre. Mais bon.
Ça va s'appeler L'amour, c'est bon pour la santé. C'est ça. Comme Happy Sex 2.
Et j'ai eu un message des éditions de La Musardine. Ils sont d'accord pour publier votre livre. L'amour, c'est bon pour la santé. Merci.
Beaucoup de vendus.
Merci Daniel Messer. Tanguy Passureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Vous allez nous parler des municipales.
Oui, c'est pile dans 6 mois. Hein, on sera tous moches, pâles et claqués. Alors, il y a les stars du scrutin comme Gérard Collomb à Lyon et à Paris, Anne Hidalgo qui est zen parce que La République En Marche n'a pas mis un, mais deux candidats face à elle. Ils s'auto-annulent. Elle est peinarde. Là, elle nous écoute sans doute dans son hamac.
On en parle après les infos de midi. Original avec Léna Kadogoudé.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour monsieur.
Albert Algou.
Bonjour.
Jérémy Crédville.
Bonjour.
Tanguy Passureau.
Bonjour à tous.
Et notre invité est l'excellent Zep. Happy Sex, publié chez Delcourt, c'est le deuxième tome, 10 ans après. Ça peut paraître long, c'est parce que vous avez d'autres choses à faire ou vous cherchez des idées?
Un coup tous les 10 ans, c'est bien.
10 ans, mais 60 planches.
Ouais, quand même.
Vous n'avez pas poussé la vanne en faire 9 de plus? Vous avez dit non, on va rester là?
Non.
Ok, très bien. À quel moment d'ailleurs vous vous dites qu'une planche passe ou pas? Est-ce que vous vous interdisez? Est-ce que c'est sans limite? Est-ce que la limite est justement de faire rire les personnes de votre entourage comme une espèce de baromètre?
Vraiment, faut que ce soit drôle. Et celles qui sont le plus drôles, c'est celles qui parlent le plus de notre quotidien. Si je raconte une histoire, une anecdote complètement incroyable de quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai une histoire avec 14 partenaires hein », ça va être moins... Ça peut être spectaculaire, rocambolesque, mais ça sera moins marrant parce que on est moins dans le quotidien. Pour finir, ce qui est le plus marrant, c'est le mec qui négocie la sodomie avec sa copine, enfin ce genre de choses.
Alors ça peut être quotidien. Les clubs échangistes,
oui.
les spas où tout le monde fait l'amour et
on reconnaît la voisine
et les orgies. Oui. Ne lui parle pas.
Je suis tombé sur Nicolas Demorand une fois, ça fait drôle. Hein. T'entends plus la matinale pareil.
Non mais donc c'est vous allez chercher quand même des histoires, c'est plus des anecdotes du vécu, j'espère.
Non, mais ce sont rarement des anecdotes, hein, c'est des histoires qui sont inventées en fonction de ce que je vais chercher à gauche à droite, et puis l'histoire doit sonner, souvent une histoire inventée, elle va sonner plus vraie qu'une vraie anecdote.
Et celle des enfants qui surprennent les parents, le cunilingus dans la cuisine, un gamin surprend... ses parents.
Mais il croit que sa mère accouche. Attention,
c'est extrêmement drôle.
Ouais, c'est une longue jupe.
Oui, il y a une longue jupe.
Parce qu'il y a des pieds qui dépassent, c'est ceux du mari. Il croit que c'est ceux de l'enfant.
Et donc il va appeler son père en disant vite, il faut appeler les pompiers, il faut aider maman, elle accouche.
Ça, c'est une histoire presque qui pourrait être dans un Titeuf, en fait.
Oui,
c'est ça.
Je crois qu'il n'y en a qu'une avec des enfants, mais c'est toujours assez marrant. Je crois que dans le premier Happy Sex, il y avait plus d'histoires avec les enfants, mais aussi parce que à l'époque mes enfants étaient plus jeunes, donc j'étais plus confronté à ce genre de trucs. Aujourd'hui ils feraient pas semblant et ils diraient pas oh là là maman est en train d'accoucher. Je pense qu'ils ont compris
le mode d'emploi de la fellation, c'est extrêmement drôle, enfin tout est extrêmement drôle.
Ah, ça je me suis bien amusé à dessiner le truc frustrant c'est quand même, le dessin est petit, et de dessiner aussi...
Le sexe d'homme, c'est
une centaine
difficile.
De sexes différents.
Ouais.
Non, c'est génial, moi j'adore dessiner, parce que c'est comme les visages en fait, les sexes,
il n'y en a pas deux qui se ressemblent.
Mais c'est très petit dans une BD. Alors celui-là, on est un peu plus dans du gros plan, et aussi celui des selfies, où on voit les choses un peu plus...
Oui, c'est une jeune femme qui fait des selfies, smiley, licorne, miss you, mais à chaque fois, c'est avec le sexe d'un partenaire, elle envoie ça à sa copine comme blague. Ça pourrait être horrible et obscène, mais c'est très drôle.
Le dimanche au dîner de famille et que le téléphone est posé sur la table et que c'est les parents qui voient.
Tu as reçu la photo de ta copine.
Mais jamais les hommes ne sortent grandis des histoires.
Mais en fait,
c'est
avec tendresse à chaque fois.
Les femmes, pas forcément non plus.
Ils restent losers,
on raconte les ratages surtout. C'est ce qui est marrant et on a besoin de rire de ces trucs-là. Mais c'est vrai que l'homme, comme on est plus dans l'idée de la performance, de montrer des contre-performances, on a l'impression qu'on s'en prend plein la gueule. Mais je crois pas qu'on en prenne plus que.
que la, la politesse, se laver les mains et, ou ne pas parler la bouche pleine aussi en amour, tout ça fait partie des, des grandes vannes, des grands
et le
moments.
Message, des, le message des fleurs et des plantes, là, pour
ah, c'est formidable. On n'achètera plus des fleurs ouais. pareilles maintenant.
Ah, non, clairement. Ah, Happy Sex 2, vous comprenez bien qu'on ne peut pas en dire trop, mais qu'on vous
met. Déjà, on a fait pas mal, là.
Mais qu'on vous met l'eau à la bouche. Happy Sex 2, c'est chez Delcourt. Voici Tanguy Passion. Et ce sont les élections, j'ai bien dit, les élections municipales, Tanguy, sur eux qui arrivent.
Oui, et autant les européennes, les gens s'en foutaient. Hein. Qui se souvient de Nathalie Loiseau? Elle-même ne sait plus qui elle est quand elle se voit dans le miroir. Elle dit, je sais pas, je vais prendre le coup de fil à un ami. Autant les municipales, bah ça nous touche au cœur. Parce que le maire, c'est le seul élu accessible, à part Levallois-Perret où pour le choper, il faut se rendre au parloir. Regardez à Lyon, depuis 1904, Gérard Collomb parcourt les marchés. Il a déjà croisé 14 générations de poissonniers. C'est lui qui a créé la ville de Lyon. Au tout début, il a donné le premier coup de pelle. Et ben, ça, c'est palpable. Au sens figuré, attention, il n'y a que sa femme qui le palpe, hein, pour voir s'il est toujours vivant. Regardez Martine Aubry. Ça fait 18 ans qu'elle est maire de Lille. 18 ans, c'est énorme. C'est le temps qu'il faut pour réussir à faire un piercing à un lépreux. André Santini, le type fun qui fait des vannes de sgeg, est maire d'Issy-les-Moulineaux depuis 39 ans. Quand il a commencé, Mitterrand n'était pas encore président et Christian Clavier était drôle. En 1980, il est entré à la mairie. C'est lui qui a inventé le coussin à mémoire de forme parce que le galbe de son boule est incrusté à vie dans son fauteuil. Impossible de le faire sortir de là. Ils ont essayé de la pâter. Une fois, ils ont collé Guy Montagnier au mégaphone en y faisant hurler la blague des deux noirs et du castor. Santini a répondu « Je la connais, j'ai 50 ans de grosse tête, vous m'aurez pas !» Il est resté dans sa mairie. Pour survivre, il se fait livrer des rognons de porc par drone. Et puis, à Paris, alors on a Anne Hidalgo, une petite dame qui a dû toucher des pots de vin de Peugeot Cycle parce qu'elle se transforme une ville en vélodrome. Récemment, ça a été compliqué pour elle. Fiasco du nouveau Vélib, arrêt de l'autolib, en fait, tout ce qui finit par Libre, ça porte malheur. Si Michel Leeb va en Angleterre et qu'il y a la douane qui rouvre, on lit sur son passeport Michel Leeb, il meurt, direct. Ensuite, quatre migrants se cachent à l'intérieur de son corps pour passer à Londres. Hidalgo, à la base, bon, sa candidature, on n'y croyait pas trop, parce qu'elle est plus clivante que le débat consistant à savoir si on dit pain au chocolat ou chocolatine. Bonjour. Mais là, chocolatine. Un coup de bol comme il s'en produit un par siècle. Le dernier, c'est quand par hasard, Florian Philippot a croisé chez le coiffeur la dame qui a voté pour lui. Sont arrivés non pas un candidat en marche, mais deux. C'est comme Alain Fleloup, sauf qu'on se les met pas sur le nez, ou alors c'est qu'ils font une campagne très haute à Pigalle. Il y a d'abord Benjamin Griveaux, alors qu'il s'appelle en réalité Benjamin Blaise, mais il a raccourci parce que le dernier Blaise connu, c'était dans la classe avec Fabrice sur FR3. Il a 41 ans, a collaboré 4 ans avec Strauss-Kahn. C'est lui qui, le matin, lui faisait son café, gingembre, Viagra, bois bandé. Dès 7h, Strauss-Kahn faisait l'amour au lustre de son bureau. 9 mois plus tard, est née une jolie lampe de chevet de 400 grammes. Griveaux, alors, c'est le candidat officiel en marche. Macron lui a donné un coup de tampon sur le front, lui a dit « Vas-y Coco, dégage-nous mamie vélo » et c'était parti. Sauf qu'ensuite, Cédric Villani, dissident en marche, s'est lancé Villani, vous voyez, très reconnaissable puisqu'il est sapé comme ma grand-tante qui fait les brocantes. Il a une broche d'araignée. Lui préfère les rhinocéros, mais la broche de rhino grandeur nature réalisée pour lui faisait 750 kilos et allait faire les meetings avec un transpalette. Donc il a choisi une araignée.
Donc le problème, ces deux candidats venant du même parti, s'annulent.
Mais oui, ils s'auto-neutralisent, c'est totalement con. Anne Hidalgo regarde tout ça en dansant. Son budget de campagne va s'établir à 7,20 €, soit une quinzaine de petits fours, plus de la pâtée pour son chat, parce qu'elle n'a rien besoin de faire. Le souci pour la REM, c'est que Villani est persuadé qu'il a un destin, alors que personne n'a de destin. La vie est juste une succession de hasards. Vous croyez qu'à 20 ans, quand je voyais Nagui à la télé, je me disais « Bouchon, un jour tu feras beaucoup de bien à la carrière de cet homme en associant ton image à la sienne ?» Non. Je me disais « Ces vestes jaunes vifs reflètent moins un caractère propre qu'une époque confuse. » Et en face de Villani, Griveaux est quand même le candidat choisi par Macron. Donc que Villani se lance, ça laisse penser que le président a moins de pouvoir que Spider-Man quand sa mamie a mis sa tenue au linge sale. C'est comme si à l'Elysée pour le déj, Macron disait « Je vais prendre la blanquette » et que le chef cuisinier répondait « Bah non vieux, ce midi c'est cannelloni, tu manges !» Alors aujourd'hui, Cédric Villani inaugure son QG, une cave gothique avec des chauves-souris qui dévorent de jeunes vierges. Il va y aller à pied, il marche avec des souliers portés en 840 par le roi Charles II le Chauve. Alors son conseiller presse explique que c'est le symbole de la marche vers l'hôtel de ville qui est juste à côté du QG. Mais à côté, ce n'est pas dedans. Comme me l'expliquait en 87 Marie-Hélène Hélène, cette jeune fille rencontrée à la section ado du club Mickey de la Baule. Bref, il se projette. Dans sa tête, il est déjà à la mairie. Il s'imagine annuler le Vélib au profit du carrosse libre, avec des chevaux, et on portera tous des perruques poudrées. Quant à Benjamin Griveaux, alors là, il lance de grandes réunions avec Delphine Burkly. Vous voyez qui c'est? Ouais, non, c'est une dame qu'il vient de voler aux Républicains. Il n'en restait qu'une dans le local, plus 12 mouches mortes. Il s'est dit en politique, on fait assez de mal comme ça aux mouches. Et donc, il l'a choisi, elle. Alors, à noter qu'il propose aussi, lui, de faire une pause d'un an dans les travaux, parce qu'à Paris, mais il y a des travaux partout. Mais tout à l'heure, un chef de chantier a même essayé de me refaire. J'ai dû lui expliquer que j'étais pas du matin et que ma tête, c'était normal. Bref, à Paris, ils sont deux en marche, encore cinq, et ils ouvrent un club de rando.
Merci. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Allez, des questions culture pour la bande originale.
C'est mon rayon.
Zep, vous pouvez essayer vous aussi de trouver le point commun qu'il y a, ou qu'il y aura à partir de demain, vendredi, entre Titeuf et Soprano.
Ils ont une...
Musée Grévin.
Ouais.
Exactement.
Ouais.
Ouais, Musée Grévin, ouais. Quand je pense que moi j'ai été fondu.
Quoi?
Ah ouais, toi aussi.
Léa Salamé.
Ah, t'as été fondu? Ils t'ont détruit?
Non, pour faire Léa Salamé.
Je sais pas, en tout cas.
Si,
j'ai été au Musée Grévin et ils m'ont fondu. Ils ont récupéré la cire, ils ont dit non, on va en faire autre chose. Il y a rien de plus humiliant. Finalement, on s'est trompé.
T'es même pas consulté? T'es averti?
Non, j'ai été fondu.
On te passe un coup de fil en disant bon.
Pas du tout.
On ne peut pas récupérer, faire des bougies.
Mais c'est très violent. C'est comme à France Télé quand t'arrêtes.
C'est humiliant.
Vous ne pas y être. Regardez un bout.
Quel est le... La mèche. Quel est le nouveau projet commun entre avec Will Smith et Leonardo DiCaprio? Ils ont un projet en commun, lequel?
Une prod?
Non.
Sauver la planète?
Un documentaire?
Oui, mais alors comment?
Donner de l'argent?
Non.
Ils font campagne contre Trump?
Non. Ils veulent sauver l'Amazonie.
Ouais.
Mais comment?
En lâchant Trump contre un arbre.
Non.
En parachutant des zizi sexuels sur...
Non plus. Sur Bolsonaro. Non.
En interdisant les autoroutes.
En récoltant des fonds pour financer.
Oui. Et comment? Avec.
Par un film, par une chanson, par un concert.
Avec l'ordre de
un festival.
Un festival.
Il crée quelque chose.
Une fondation.
Un
prix, un jeu concours.
Un festival.
Un temps avec eux.
Il fabrique un objet pour
ses chiens. Un arbre.
Non. Mais.
Une peluche.
Un slip.
Non.
Une plante. Une fleur. Une fleur.
Et un préservatif.
Non, ben non.
Et une radio,
quoi, il y a quoi après la chaussette?
Des chaussures.
Des pieds.
Des chaussures.
Des chaussures.
Je suis fatigué.
Ouais. 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 Je crée
des chaussures.
Je faisais de plus en plus bas.
Vous avez planté les choux.
Je croyais que tu parlais d'Happy Sex, parce que l'album est en dessous. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait?
Ils ont décidé d'unir leurs forces pour sauver la forêt amazonienne, et avec une société qui s'appelle All Birds, qui compte la star du revenant parmi ses investisseurs. Ils ont créé une... Puis il y a une marque d'eau aussi, je crois, dans la famille. Ils mettent au point donc des paires de baskets en édition limitée. 100% des bénéfices engrangés par les ventes iront directement aux Amazon Forest Fund, créé par Leonardo DiCaprio, qui a déjà versé 5 millions de dollars à la fondation. Et sont des poids lourds qui se mettent au service. Mais pardon, c'est ce que vous faites vous aussi, Zep, avec Titeuf, c'est-à-dire un engagement, si ce n'est pas pour l'Amazonie, c'est humanitaire. Je me souviens d'Handicap.
L'Amazonie, ça va être dur parce qu'ils n'ont pas envie de... ils m'ont pas appelé.
Non, mais je me souviens de Handicap international.
HCR, ouais. HCR aussi, non?
Bah oui, mais souvent, en fait, Titeuf a souvent été porte-parole de
valeurs,
d'un message.
Puis Zep, il offre des dessins, des planches à des gens qui ont des belles causes. Donc, je veux le saluer au passage.
Non, mais c'est un mec bien, voilà, extrêmement généreux, et il fait pas que des horreurs sur la sexualité, sur l'humour.
C'est pas qu'un dégueulasse.
C'est pas qu'un dégueulasse, voilà, c'est quelque part un mec bien si on gratte un peu. Le maire de Rio, tiens, pour votre plaisir, Zep, on va repartir au Brésil. Le maire de Rio vient de faire interdire...
Ah, c'est en trois
mots. Il vient de faire interdire une bande dessinée. Quelle explication a-t-il donné?
Mauvais exemple.
Non.
Incitation à la violence, à la haine,
à la
drogue.
Il a un personnage qui lui ressemble dedans.
Non, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça.
Incitation à polluer, à ne pas respecter la ville, les règles.
L'homosexualité.
Exactement, Jérémy. Bien vu.
Terrible.
Elle montrait deux super héros hommes qui étaient en train de s'embrasser.
Et donc, Marvel.
Début juin, la Cour suprême du Brésil a décidé de criminaliser l'homophobie. Et pourtant, le maire de Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a obtenu le retrait d'une bande dessinée qui montrait deux super-héros hommes en train de s'embrasser.
C'est Marvel.
Je crois, ouais.
Je sais pas si c'est Marvel.
Un comic sur un Marvel.
C'est que pendant ce temps-là, ils sauvent pas le monde. Donc
oui, non, mais tu as raison, c'est Young Avengers. Ouais. Les Justiciers, la croisade des enfants. Est-ce que, justement, vous avez déjà été, à part par Bolsonaro, censuré, interdit?
Non. Il y a eu des tentatives, il y a pas mal de... Encore maintenant, je crois qu'il y a un comité au Québec qui tente depuis 20 ans de faire interdire Titeuf de librairie. Mais
Tout Titeuf des...
Ouais.
Mais pourquoi? Sur quel prétexte?
Bon, parce que ça parle de sexualité. Alors que c'est pas vraiment le sujet, mais enfin, il y a des histoires où les enfants parlent de sexualité. Donc voilà.
En France aussi, il y a quand même plein de groupes de parents d'élèves à un moment qui ont voulu faire supprimer.
Chaque fois qu'il y a eu l'exposition de vie sexuelle qui se déplace quelque part, il y a un comité qui veut la faire interdire.
C'est toujours les mêmes d'ailleurs.
Les mêmes des albums jeunesse, standards.
Il y a un précédent en Ukraine où Bob l'éponge est interdit. Si, c'est incitation à la sexualité.
Bob
l'éponge. En relation avec l'étoile de mer.
Avec Patrick.
Ouais.
Avez-vous
il a plein d'orifices, Bob l'éponge.
C'est du gâchis.
Hyper provoquant.
Lui, on l'appelle le trou. C'est Daniel Morin.
Ah, c'est gentil. Il connaît tous mes surnoms, c'est impressionnant. Allez, on n'a peur de rien, les amis. S'il faut dénoncer, on y va. Après tout, on est un pays de tradition et la collaboration fait partie de notre patrimoine culturel. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer un nouveau type de chronique. Ça s'appelle Coucou les fumiers. Ah oui, quand je vous vois, Nagui, tout de suite, j'ai des idées.
Pensez à ça.
Coucou les fumiers, un petit clin d'œil amical à toutes les raclures qui nous entourent, tous les enfoirés qui respirent le même air que nous et qu'on aimerait voir mort. Bon, mort, j'exagère, mais au moins gravement accidenté. Alors cette semaine, on a deux lauréats pour Coucou les fumiers. Et le premier est... celui qui a volé deux petites voiturettes électriques dans une clinique au Mans. Des voiturettes destinées aux enfants malades de la clinique pour les accompagner de façon plus ludique au bloc opératoire. Et ben ces deux voiturettes ont été volées. Alors je vous propose qu'autour de la table, nous nous tenions la main pour inviter les esprits de la vengeance à frapper l'ordure qui a fait ça. Esprit vengeur, reçois ma supplique. Place une savonnette sous les pieds du voleur de voiturette, qu'il pisse dessus, tombe dans son escalier. Que sa mâchoire frappe les marches, qu'il se casse les dents, puis qu'il roule jusqu'en bas, bouscule un meuble sur lequel une grosse bouteille lui tombe sur la tête, lui fende le crâne. Qu'en se relevant, le dieu individu se coupe les pieds, se revient cassé, qu'il rechute en arrière, se casse un bras ou deux. Amen.
Ça marche. Son mur, en tout cas.
Ouais, hein. Deuxième lauréat de Coucou les fumiers. Oli Ilunga, ancien ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Attention, cramponnez-vous, il aurait détourné 4 millions de dollars destinés à la lutte contre le virus Ebola. Oui, champion ! Là, niveau salopard, on parle gros niveau. Là, c'est clair, à côté de lui, le voleur de voiturettes électriques, c'est l'abbé Pierre. Bravo, monsieur Ilunga ! Vous êtes sans conteste le fumier de la semaine ! Allez, on se remobilise. On invoque le dieu de la vengeance pour que la fatalité punisse monsieur Ilunga. On va changer d'approche. Dieu de la vengeance, de la nature et des saucisses bon marché qu'on fait griller au bord de l'eau. Fait que pendant sa promenade dans le jardin, les chevilles et les poignets de monsieur Ilunga soient saisis par des racines folles qui le maintiendront au sol pendant que les scarabées et autres coléoptères affolés chercheront refuge, rentrant en lui par les oreilles et par le nez. Pendant ce temps-là, dieu de la vengeance et de la nature fait tomber la foudre sur monsieur Ilunga, que ses vêtements prennent feu et une fois nu et offert une plante aussi carnivore que coquine qu'elle lui mange le zizi sexuel. Amen. Ah ben voilà. J'espère que toutes ces prières seront entendues et que nos deux tristes individus souffriront le martyre. Allez, à bientôt pour une nouvelle séance de Coucou les fumiers.
Salut. Merci.
La bande originale avec Nagui.
L'actualité de Zep, notre invité, il y a le Happy Sex 2 chez Delcourt, le Capitaine Biceps avec Thébaud, c'est chez Glénat. Avez-vous d'autres déjà projets sur le feu, que ce soit bande dessinée ou annexe?
Bah là, je suis en train de faire tous les dessins de pochettes pour le prochain album d'un chanteur français.
Dont on dira pas le nom.
On peut pas dire encore son nom, mais d'accord. Il a un petit bandana rouge autour du cou.
C'est pas Zep qui fait les dessins, c'est le dessin qui est fait par Zep.
On va regarder ça.
On n'en dit pas plus.
Non,
hein,
on en dit pas plus.
Reste,
mais là, c'est pas Titeuf, ou est-ce que c'est...
Non, c'est pas Titeuf.
Et ce sont des caricatures de ce chanteur?
Ce sera, voilà, ouais.
Plus proche de ça, d'accord. Et dans la bande dessinée pure, est-ce que il faut s'attendre à un nouveau Titeuf,
oui.
Un nouveau Happy Rock, on a compris que non.
Non, il y a plusieurs projets. J'ai pas encore commencé le prochain album, donc je sais pas.
Ça veut dire qu'on l'aura pas pour Noël?
Non.
Mais enfin, qu'est-ce que vous faites?
Pour Noël, il y aura.
Happy Sex? Alors, Renaud, d'accord. Ah bah, pardon.
Ouais.
Non,
j'ai pas dit. Non, j'ai pas dit. Leïla, qu'as-tu retenu d'Happy Sex 2 ?
J'invite tout le monde à le lire parce que je me suis vraiment fendu la poire et que c'est hyper réjouissant de rire. Oui, je sais. Ne dites rien. C'est hyper réjouissant de rire et je suis complètement d'accord avec vous. C'est sans doute un support hyper utile pour parler des choses qui posent problème.
Daniel Morin.
Merci. Moi, j'ai retenu en parcourant Happy Sex qu'il y a plein de trucs que j'ai proposés qui m'ont été refusés et qui pourtant sont totalement acceptés.
Albert,
formidable album et très grand dessinateur, il faut le souligner.
Ouais, le trait. Jérémy, ouais,
60 planches, je me suis retrouvé dans 22.
C'est pas assez. Tanguy Passureau.
Il faut que je lise et que j'apprenne des choses parce qu'il est temps que je sorte de la virginité.
Et vous aimeriez, Zep, que l'on vous dise j'ai lu votre livre et.
Je me suis marié.
Ouais. C'est des rires sonores.
C'est pour faire de rappeler que la sexualité, c'est le terrain de jeu des grands. Pour finir, on n'a plus tellement de terrain de jeu, de trucs où on invente des histoires, où on peut jouer des rôles, où on peut faire le fou, quoi. Et le sexe, c'est ça, c'est le terrain de jeu des grands. Donc, rappeler que c'est voilà. On est censé s'amuser, s'épanouir dans cet espace-là.
Est-ce que vous êtes obligé d'expliquer aussi à certaines personnes que c'est pas forcément vous ou votre vie personnelle qui est caricaturée dans Non, parce qu'on se dit toujours un auteur, il y a une part autobiographique, donc.
Oui, non, mais comme il y a des gens de tous âges, disons qu'on m'associe plutôt aux personnages qui sont déjà qui ont la
parfois
cinquantaine.
Parfois ils vous ressemblent,
hein.
Ouais,
il y en a un ou deux ouais, qui
ceux
vous ressemblent.
Ceux qui ont du mal à mander ou.
Ah, j'ai pas dit lequel. Hein.
Non, mais c'est vrai, il a raison. Il a raison. Ça s'appelle Happy Sex 2, c'est extrêmement drôle. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Alors, bien sûr, pour commencer, désolé pour Jair Bolsonaro, Jair le jardinier, dont l'intégrité, le bon goût, la morale, la vertu ont été moqués, raillés, malmenés, tambourinés par l'ensemble de cette tablée de pervers dégueulasses. Enfin, vous le savez, les gars, jamais on ne salit les amis de Nagui. J'espère que ça rentre. Hein. Désolé pour les la romance, la France. Ce matin, aucune blague douteuse, graveleuse, odieuse n'a été loupée. Vous me connaissez, j'en ai prouvé. Une gêne, une honte, un dégoût profond. Et en même temps, une forme d'attraction, d'excitation, d'érection. Enfin bref, désolé pour les fidèles auditeurs lettrés de France Inter qui, ce jeudi 19 septembre, ont pu entendre cet échange historique pour la première radio de France. Je cite... En tub. Bonne réponse. Vous me connaissez. J'en éprouve une gêne, une honte, un dégoût. Et en même temps, vous connaissez la suite.
Merci Zeb, merci mille fois, bravo.
Merci.
On a de l'admiration et pour.
Qui en a appris des trucs.
Et pour l'artiste et pour le bonhomme. Et merci pour tous les conseils donnés à Daniel Morin et à Jérémy Crédville autour de cette table.
Qu'est-ce qu'il fait Pascal ?
Demain, nous recevrons Mazarine Pinjot pour son roman Se taire. Passez une bonne journée à suivre. Ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne émission, Philippe.
Oui, merci les amis. Merci. À demain. À ciao.